Yves Montenay est écrivain, il est docteur en géographie humaine, il est directeur de l'Institut Culture, Économie et Géopolitique. Et Yves Montenay tient aussi un remarquable blog dont je signale les références, yvesmontenay.fr. Alors, cher Yves, bonjour. Je suis heureuse de vous accueillir et précisément parce que nous allons effectivement parler de francophonie à l'occasion du 19e sommet qui va se dérouler en France, où la France va accueillir 88 ou 89 chefs d'État, à la fois les 4 et 5 octobre, à la fois à Villers-Cotterêts et à Paris. Et cette francophonie, je voulais l'évoquer avec vous parce que je la trouve actuellement, alors c'est peut-être un avis personnel, très fragilisée en France par l'abandon d'une véritable politique linguistique, et fragilisée aussi dans le monde par le délitement des liens avec certains pays d'Afrique. C'est un peu ma première question, cher Yves. Quel est votre sentiment sur la perception de la francophonie actuellement en France?
Alors, il me semble clair, malheureusement, que dans le Nord, pas seulement en France, et c'est-à-dire en Belgique, en Suisse, au Canada, la francophonie recule n'est pas le bon mot. C'est-à-dire que l'anglais prend de plus en plus de place pour des raisons qui ne sont pas des raisons complotistes, si j'ose dire. C'est un mouvement général qui touche d'autres pays et d'autres langues et qui correspond au mécanisme qu'on appelle en physique un réseau prospère par l'usage. C'est-à-dire, plus il y a de gens parlant une langue, plus on a intérêt à la parler. Alors, c'est très très clair pour beaucoup de gens qui sont autour de moi, qui publient des romans en français à un tirage de 100, qui les publient en anglais à un tirage de 1000, qui s'expriment devant tant d'auditeurs pour y s'exprimer devant 10 fois plus. Donc il y a une pression qui ne tient pas à un complot du gouvernement américain, qui ne tient pas à un complot de multinationales, qui est, de l'évidence de la gestion quotidienne pour beaucoup de gens. Ça, c'est un problème important, un point important, et ça joue au Nord comme au Sud, mais au Nord, on n'avait pas l'habitude de ça. Bon, au Sud, rien n'est joué, on va le voir plus tard. Mais au Nord, les gens travaillaient dans leur langue, ne se posaient pas de questions. Et maintenant, de partout, on leur dit, attention, il vaut mieux dire ceci, en anglais, ou il vaut mieux de le parler comme cela, au lieu de le dire en français. Et c'est rappelé par la hiérarchie, c'est rappelé par la pression des clients, c'est rappelé par beaucoup de gens. Donc, à ce point de vue-là, le vocabulaire courant, les journaux, la vie en entreprise, s'anglicise. Il y a aussi, comme vous disiez tout à l'heure, le fait que les journalistes n'ont pas une culture suffisante, en ce sens que les mots français normaux leur échappent. Et ce qui me frappe le plus, c'est le mot global. Global signifie en anglais mondial, donc pourquoi pas utiliser le mot mondial, parce que global a un autre sens en français. C'est globalement positif, ça veut dire que c'est plutôt positif dans l'ensemble. Global veut dire dans l'ensemble en français, oui, oui. Ça veut dire mondial en anglais. Il y a une confusion totale là-dessus. Donc, je pense que dans le Nord, il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Il y a le phénomène démographique du Nord en général, qui est qu'il y a de moins en moins de transmissions parents-enfants, puisque les parents viennent d'ailleurs. Il y a le fait que la vie est de plus en plus tournée vers l'économie plutôt que vers d'autres choses. Bon, l'économie, c'est nécessaire, tout le monde en vit, et donc on comprend, il s'explique, mais on n'est pas obligé de l'approuver, mais on comprend qu'il y a une pression formidable dans ce sens-là. Alors, un exemple que je connais bien est celui, j'allais dire, des femmes d'Amérique du Sud, mais c'est valable partout dans le monde. Il y a 50 ou 100 ans, tout le monde connaissait le français, utilisé comme langue seconde. On disait même qu'il y avait un métissage entre le français et l'espagnol, le fragnol. Et puis, les hommes se sont trouvés pris dans d'autres métiers. Au lieu d'être eux-mêmes, par exemple, à la tête d'une plantation, ils sont devenus cadres supérieurs dans une entreprise agronomique multinationale, par exemple. Beaucoup de gens ont changé de statut économique. Et donc, ces gens se sont mis à parler anglais. Et on est arrivé à une deuxième phase que j'ai connue. Les femmes parlaient français, suite de la tradition précédente, les hommes parlaient anglais. Mais voilà que les femmes travaillent aussi maintenant. Donc elles sont soumises aux mêmes pressions. Donc voilà un exemple d'évolution qui est négative. Heureusement, il y a des évolutions positives aussi. Quand je dis cela, je pense à donc l'économie, le fait que la société devienne de plus en plus économique. Et je ne pense pas que ce soit un complot, c'est la pression normale de la réalité.
Voilà, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on n'y échappera pas, en fait.
Ça veut dire que ceux qui aiment la langue française, qui sont quand même, je pense, la majorité des Québécois, des Français, des Romands, des Wallons, vont l'utiliser, mais pas dans tous les circuits.
Oui.
À moins qu'il y ait encore un mouvement imprévu qui change les données de cela. L'histoire passe son temps à changer. On est passé du latin au français, pour ce genre de travaux. Hein. On est passé du français à l'anglais, demain on passera peut-être de l'anglais à autre chose. Mais c'est un mécanisme qui est en place, et à mon avis la première chose à faire, c'est de prendre conscience du mécanisme. Là, j'aime bien citer le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'a pas caché que la France avait subi une défaite. Nous avons subi, la France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. C'est-à-dire, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se dire que l'armée française a gagné. Elle s'est fait encercler en Belgique, en fait, vous connaissez tous la suite, mais il y a d'autres choses à faire, et c'est un peu pareil. Il faut être conscient de ce qui se passe, et s'organiser en conséquence, en mettant l'accent, alors d'abord sur l'école, bien sûr.
Alors, oui. Ça, c'est un sujet que nous pourrons aborder au cours d'une prochaine émission, parce que, effectivement, je pense que, en France, le point de départ, maintenant, pour faire aimer notre langue, c'est forcément d'abord à l'école. C'est une évidence. Et ça, c'est un autre sujet. Alors, moi, je vois que ce 19e sommet, semble se diriger sous le signe de la création, de l'innovation et de l'entrepreneuriat en français. C'est le grand thème qui nous est proposé. Alors, la France et l'OIF sont convenus que justement la créativité, l'innovation, l'entrepreneuriat dans la diversité de l'espace francophone seront placés au cœur de l'événement. Alors, est-ce que vous y croyez déjà à ça? Non. Est-ce que ce ne sont pas des mots?
Ça dépend, je dirais, des pays, mais il y a des mouvements très réels dans ce sens-là. Je participe quelquefois aux manifestations du MEDEF 93, qui, comme son nom l'indique, est un mouvement patronal, mais qui est peuplé d'entrepreneurs d'origine étrangère depuis une ou deux générations. Donc il y a un bouillonnement des petites entreprises comme partout dans le monde. Et ces gens-là cherchent à s'implanter dans leur pays de départ, ou dans le pays de leurs parents. Donc, il y a, à ce point de vue-là, un mouvement important qui joue en faveur du français, mais pas n'importe où. Il joue en faveur du français là où on peut travailler normalement. On ne peut pas se faire piller par le voisin, ou on ne peut pas se faire voler, aussi bien par le neveu du président que par un groupe islamiste. Donc, c'est vrai, dans certains endroits, c'est vrai en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est vrai au Cameroun, peut-être pas dans tout le Cameroun, mais dans une bonne partie du Cameroun, c'est vrai au Gabon, c'est vrai dans certains endroits de la RD Congo, donc il y a effectivement un mouvement dans ce sens-là qui est plutôt un bourgeonnement de petites entreprises. Mais c'est ça le plus important, à mon avis. Dans les grandes entreprises, alors les entreprises qui sont conscientes du fait qu'il faut s'adapter aux question locale. Par exemple, il est commode d'avoir un comptable francophone au Maroc ou en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a celle qui pose un oukaz en disant « supprimons un problème, supprimons des traductions, on fera tout en anglais, c'est tout ». Et à mon avis, elle se prive de beaucoup de compétences en faisant ça. Je pense que c'est une erreur managériale. Donc, il faut plutôt se battre sur les questions d'efficacité managériale que sur des questions, je vais dire, qui nieraient la réalité. Il ne faut pas nier la réalité, il faut l'utiliser. Il faut dire, vous êtes une grande entreprise internationale, vous vous implantez au Maroc, vous avez la tentation de tout faire en anglais parce que c'est plus simple. Effectivement, il y a une petite minorité qui grandit, mais une minorité tout de même petite, de Marocains anglophones. La grande majorité des gens qualifiés, l'énorme majorité, la quasi-totalité des gens qualifiés au Maroc sont francophones, et de très bons francophones. Je laisse de côté quelque chose qui n'est pas économique, qui est le côté de la religion et du droit personnel, qui lui est en arabe pour des raisons religieuses assez strictes. Mais donc, il n'est pas assez connu, et c'est là peut-être qu'il faut se battre, qu'il est de l'intérêt d'un chef d'entreprise de s'adapter aux ressources humaines locales, là où elles sont en français. Et non pas de faire un oukase du pied de la tour Eiffel en disant « je simplifie tout, tout en anglais, je simplifie tout ». Il va perdre énormément de ressources humaines, de choix de gens compétents, s'il fait ce genre de bêtises.
Alors, est-ce que, ça c'est un deuxième point, vous n'avez pas l'impression que depuis quelques années, il y a une forme de délitement des liens de la France avec certains pays d'Afrique. Alors, qui pourrait créer un problème, justement.
La France n'est pas la langue française.
Oui. Alors, voilà.
Et dans un pays comme le Mali, qui est violemment anti-français, qui a des problèmes aigus, qui, pour faire plaisir à ses alliés russes, dit « le français n'est plus langue officielle », ça ne change rigoureusement rien.
Ah.
Le français n'est plus langue officielle, c'est une langue de travail, donc on continue à travailler en français. Et il faudrait changer le système d'enseignement, les Russes n'ont aucune envie, les gens de Wagner sont des brutes, qui sont là pour protéger le pouvoir en place. Ils ne se soucient absolument pas de la langue de travail dans les bureaux, ni de la langue de travail de l'enseignement. Il faudrait qu'un intellectuel russe, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas de quelles circonstances, ait une influence sur Wagner pour leur dire « attention, il n'y a pas seulement... Votre rôle n'est pas seulement de tirer sur tout ce qui bouge, votre rôle c'est aussi de remplacer le français par le russe, ce ferait rironner à mon avis. Je ne pense pas que ça touche à la langue française là où il y a, je dirais, des pouvoirs qui tournent mal, qui tournent mal souvent, qui tournent bien dans certains pays, on peut parler de la Côte d'Ivoire, dans une certaine mesure le Gabon ou le Sénégal, là où il y a vraiment un danger pour la langue française qui est un danger immédiat et massif, c'est dans les zones contrôlées par les djihadistes.
Oui.
Quand on est contrôlé par les djihadistes, l'école à l'occidental, que ce soit en anglais ou en français, hein, l'école occidentale est mauvaise, est maudite.
Oui.
En abrégé, ça se dit en arabe, Boko Haram. L'éducation occidentale est diabolique. Donc, les filles à la maison, et les garçons à répéter le Coran, en arabe forcément. Et donc, ils n'apprennent ni le français, ni le cas échéant l'anglais dans d'autres pays, et ni la langue nationale. Donc, ça donne des analphabètes totaux. Mais il y a un argument puissant de la part des autorités locales. Les enfants qui savent le Coran par cœur mènent leurs parents au paradis. Un argument de vente fantastique.
Oui.
Mais qui est très utilisé.
Vous écoutez Radio Courtoisie, France, c'est mon beau souci.
Donc là, dans ces zones où il n'y a plus d'éducation, où il n'y a plus d'école, le français beau étant officiel, il ne se passe rien. Alors une partie de la population se réfugie au sud. Comment il est accueilli dans les écoles du sud, qui sont déjà pas en très bon état, il voit arriver une masse d'élèves supplémentaires, bon, c'est mieux que rien, mais je ne sais pas trop comment ça va se passer.
Alors quels sont ces pays particulièrement
alors,
qui vivent ça?
Comme j'ai l'habitude de regarder plutôt les questions, je dirais, de langue et de rapport entre elles, je je dirais que quand un pays a une grande langue dominante, comme le Bambara au Mali, à ce moment-là, les gens qui se remuent, qui se réfugient ailleurs, qui fuient les islamistes, vont parler Bambara. Et à l'école, ils apprendront le français. Mais dans quel état sera l'école sous cette masse de réfugiés, je ne sais pas. Dans un pays comme le Burkina Faso, qui est pourtant juste à côté, il y a plus de 60 langues. Donc, si on apprend même sommairement le français à l'école, il va devenir nécessaire pour se parler. Donc, la multiplicité des langues est un élément très important. Alors, les cas les plus connus, c'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun, où le français est très bien implanté, pour des tas de raisons, d'écoles privées, d'écoles religieuses, mais surtout parce qu'il n'y a pas de langue dominante. La seule langue dominante, c'est le français.
Oui. Donc, il y a encore beaucoup de pays d'Afrique où la langue dominante reste le français.
Tout à fait. Tout à fait. Ça dépend, des équilibres politiques, mais pas tant que les politiques ne s'intéressent pas tellement à ça. Et ça dépend de la diversité des langues.
Mais c'est comme nous, en France, on a l'impression que nos politiques, là, on va nous parler de francophonie pendant quelques semaines, parce qu'il y a un sommet, ça faisait 33 ans qu'on ne l'avait pas eu en France, le voilà, mais aussi bien nos médias que nos politiques, c'est pas l'essentiel
non.
de leurs préoccupations. Et c'est peut-être là où il y a une gravité, justement. Je pense qu'on a, nous en France, le ministère de la Culture a peut-être, abaissé les bras au niveau de la langue française.
La différence, en fait.
Oui. C'est-à-dire, c'est à qui on considère que... Est-ce que, effectivement, c'est pas là qu'il faudrait que les choses se réveillent, que nos gouvernants se réveillent, quand même?
Alors, je pense qu'en France, par déformation historique, on pense toujours à l'État. Mais si on regarde l'évolution des langues, elle est due souvent au privé. Des universités américaines ont inondé l'Europe de l'Est, j'étais à cette époque, j'ai vu ça avec assez d'effarement, ont inondé les universités locales de bourses pour l'Amérique. Et c'était privé, ça, c'est pas le gouvernement américain qui leur a donné l'ordre. Mmh. Et pourquoi elles ont fait ça? Elles ont fait ça parce qu'elles coûtent très cher et elles ont beaucoup d'argent. En France, on a des universités que l'on veut gratuites pour tout le monde, et c'est une forme de redistribution qu'on oublie souvent. Quand on parle des inégalités, on oublie souvent que c'est largement redistribué par l'enseignement. Mais du coup, on a des organismes d'enseignement qui n'ont pas d'argent, du coup, puisque c'est quasiment gratuit. Et donc, ils ne peuvent pas arroser les pays de bourse. Et ils ne peuvent pas non plus fonder de filiales. Alors, les grandes écoles sont un peu plus libres. Et des grandes écoles ont des filiales un peu partout dans le monde. Et j'ai encadré des élèves chinois de l'école centrale de Pékin, qui viennent se perfectionner en France. Ils parlent très bien anglais, très bien français, et je suppose très bien mandarin. Ils sont sélectionnés sévèrement, ce sont des gens très intéressants. Et mon rôle était de leur montrer ce qui n'était pas dans les cours de physique ou de mécanique de centrale, mais de montrer Paris, l'histoire de Paris, etc. C'était ça mon rôle. Et il y a... Les étrangers ne sont pas fous. Ils forment des francophones, des Chinois pour travailler en Afrique, ou pour travailler en France, tout simplement. Ils forment des francophones là où il faut. Mais là, on retombe dans l'économie. Et pour répondre à votre question sur le privé en matière linguistique, ce sont des écoles privées. Ces écoles privées sont très importantes et très nombreuses dans beaucoup de pays d'Afrique. Elles sont catholiques ou protestantes en général. Si elles sont musulmanes, c'est plutôt l'arabe qu'on va privilégier.
Oui.
Mais il y a des pays où la population musulmane est très faible. C'est tel qu'en Côte d'Ivoire, ça n'est plus à cause de tous les réfugiés qui viennent du Nord. Mais c'est quand même profondément ancré. Et puis, il y a une grande diversité de langues. Mais en RD Congo, dont on ne parle pas beaucoup en France, parce qu'on ne la connaît pas beaucoup, et moi-même, si je ne suis pas allé, j'aimerais bien y aller, il y a un très important réseau d'écoles catholiques ou protestantes. Et c'est par le privé que l'anglais ou le français se développe. Et on a tendance, par réflexe français jacobin, à penser État. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe.
Donc, c'est quand même... vous qui voyagez beaucoup, quand vous voyagez, vous vous exprimez systématiquement en français,
Alors,
j'ai, comment ça se passe?
Bien rodé, puisque c'est un de mes dadas, bien sûr. Je parle d'abord en français, ensuite en langue locale quand je la connais.
Oui.
Je viens d'Allemagne, j'ai parlé en allemand. Et à la fin, c'est pas moi qui bouge, c'est l'interlocuteur qui dit « Mais enfin, vous parlez pas anglais
!» Oui.
Ça se passe comme ça, en général.
Ça se passe, oui.
Alors, je lui dis, alors, s'il s'y prête, je dis, mais pourquoi, pourquoi n'avez-vous pas appris le français? Alors, si je tombe sur l'employé de base, il va regarder les yeux, il va dire, mais ça sert à rien. Et si je tombe sur quelqu'un de plus civilisé, il va répondre autrement. Mais si je tombe sur quelqu'un derrière un guichet, qui a traité des touristes, qui a traité de problèmes administratifs, et même dans des pays qui ont une bonne tradition francophone, comme les Pays-Bas, par exemple, ou l'Allemagne, où c'est pas du tout, c'est quand même un élément de standing de bien parler français, ou de parler français tout court, la personne de base qui est très loin de ces questions de standing va vous dire, mais monsieur, mais ça sert à rien. Et il l'aurait dit pour le grec, il l'aurait dit pour l'italien, il l'aurait dit pour, peut-être même
dans,
pour leur langue
nationale.
Mais
dans quel sens ça sert à rien?
J'ai eu le cas, en Allemagne, où la personne répond, oh non, on avait l'impression que c'était une langue supérieure, donc c'était l'allemand ou l'anglais.
Oui.
Oui, parce que la langue...
Oh non, on n'a pas ça de chez nous, en fait.
Oui, parce qu'en fait, c'est une langue peut-être trop recherchée. Dans un siècle, on veut aller vite, on n'a pas le temps de l'approfondir, peut-être.
Mais être une langue recherchée, c'est un autre de mes dadas, être une langue de culture, être la deuxième langue, parce qu'on a plaisir à la parler, parce qu'on a plaisir à lire des textes, ben, c'est dangereux politiquement. Parce que dès que le régime change quelque part, ce sont ces gens-là qui sont virés. Au Vietnam, ça a été...
Oui.
Je connais relativement bien le Vietnam. Au Vietnam, c'est tout à fait ça. Ho Chi Minh, qui était uniquement francophone, vietnamophone bien sûr, mais complètement francophone de formation, sa bibliothèque dans sa maison natale est uniquement livre français. La première chose qu'il a fait avec l'arrivée au pouvoir, c'est d'interdire le français, parce que ça pouvait amener des idées dangereuses.
Ah.
Et, il est un communiste pur et dur. Il ne s'agit pas de lire ne serait-ce qu'un roman qui pourrait donner d'autres idées. Alors, il y a quelques filières qui sont restées francophones au Vietnam, mais enfin, c'est très, très secondaire. Et puis, quand ils se sont réveillés, parce qu'ils se sont endormis dans une sorte d'autarcie misérable, et à un moment, c'était plus possible, et puis la Chine en donnait l'exemple qu'il fallait s'ouvrir, donc ils se sont ouverts aussi, ils sont ouverts, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé autour d'eux? Ben, ils ont trouvé des Thaïs, des Chinois, des Indonésiens, des Malais, qui avaient comme deuxième langue l'anglais. C'est ça qu'ils ont trouvé autour d'eux.
Alors, Yves Montenay, vous avez écrit un très bel ouvrage en 2015 qui s'intitulait « La langue française, arme d'équilibre de la mondialisation ».
Oui.
En 2022, à la suite de cet ouvrage, vous avez fait, dans une de vos chroniques, un état des lieux de la francophonie 7 ans plus tard. En 2024, quel état des lieux vous faites de cette francophonie?
Alors, je pense que le français a fait des progrès, là où la scolarisation en a fait, c'est-à-dire dans les pays qui sont stables. Alors, je reparlais toujours des mêmes, bien sûr.
Oui, non, mais c'est intéressant, justement, de voir.
La Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun sont des pays où il y a une stabilité politique. Alors, au Cameroun, on trouve un peu bizarre qu'un président soit en place depuis 47 ans, mais c'est comme ça. Et il y a des alternances plus fréquente en Côte d'Ivoire, c'est la scolarisation, premièrement. Bon, et ça joue aussi pour le Sénégal. Deux, le fait qu'il y ait des langues multiples, et ça joue pas pour le Sénégal, qui a une langue majoritaire qui est le Wolof, ou de Mali, une langue majoritaire qui est le Bambara. Donc, dans ces deux cas, le français, à mon avis, devient la langue maternelle, et sera suffisamment bien implanté dans le cerveau des gens, pour qu'il se trouve, je dirais, comme en France. Alors, comme en France, ça ne veut pas dire que c'est parfait, comme on vient de le dire.
Oui.
Mais ce ne sera plus le temps passe et moins il y a de chances que ce soit une langue que l'on balaye en disant, tu sais, il n'y a que des édits de foutre le camp, oui, comme c'est arrivé en Guinée.
Voilà, perçu comme une langue coloniale.
C'est ça, c'est la langue des bourgeois. Les bourgeois, on les met à la porte, il reste que le peuple. C'est arrivé en Guinée à l'indépendance. C'est en train de se rétablir un peu, mais enfin, on a perdu beaucoup de
en terrain, Guinée. En Guinée, on parle moins français.
En Guinée, les cadres ont été renvoyés par Sékou Touré. Ils ont été mis en prison, et ceux qui ont pu s'échapper sont partis.
Oui.
C'est les cadres qui étaient francophones. Qui est francophone en Afrique? Celui qui est allé à l'école. Et surtout, celui qui est allé à l'école depuis 3 générations. parce que dans la famille, enfin, suffisamment de générations pour que les grands-parents aient disparu, pour que les gens qui parlent entre eux la langue locale aient disparu.
Oui.
C'est arrivé au détriment du français en Louisiane, c'est un phénomène assez général. On va à l'école, il n'y a qu'une seule langue à l'école, alors c'est là que ça varie selon les pays, il n'y a qu'une seule langue à l'école, donc cette langue devient la langue maternelle en gros en trois générations. Et donc, là où la scolarisation continue, là où il n'y a pas de bouleversement, là où on ne met pas à la porte ou à la guillotine, comme sous la Révolution française, la République n'a pas besoin de savants, ça c'est l'amour qui m'a frappé quand j'étais jeune. Hein.
Oui,
la
moi aussi, oui. Pas besoin de savoisier, oui.
Et, bon, là où l'ordre public est normal, la scolarisation se fait et c'est le principal vecteur. Et bien sûr, ça peut être appuyé par des initiatives comme MEDEF 93 qui... C'est pas eux qui font l'implantation, c'est chaque petit patron qui le fait. Mais le fait de leur donner un peu de notoriété, le fait de leur permettre de servir des infrastructures administratives du MEDEF, c'est déjà ça.
Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans les pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie? Où en est le français chez eux, actuellement?
Alors, le français est beaucoup plus implanté qu'on ne croit, parce que toujours de journalistes qui disent... Soit j'ai parlé dans la rue, j'entends que de l'arabe, hein, donc ça veut dire que le français n'existe pas, c'est une coloniale qui est partie. Et soit suivre ce qui se publie, et ce qui se publie, c'est en général de dire qu'il faut passer à l'anglais, parce que la recherche scientifique est en anglais, parce que je réponds chaque fois que ça tombe sous mes yeux, je réponds la recherche scientifique, ça touche 0,0% de la population marocaine ou algérienne. C'est pas ça qui vous fait vivre tous les jours. Et ce que je voulais vous tous les jours, c'est de parler avec vos cousins quand ils reviennent de France, ou du Québec, c'est de faire des études en France et de faire des affaires avec l'Union européenne et la France en français. Bon, je vais prendre un exemple que je connais un peu, c'est l'agriculture du sud du Maroc. L'agriculture du sud du Maroc, ce sont des gens tout à fait dynamiques, un pays désertique et pauvre. Hein, et ils ont appris très vite les règles de l'Union européenne et ils exportent en France.
Oui.
Bon, quand ils peuvent, parce qu'il y a eu 6 ans de sécheresse et maintenant des inondations. Mais bon, dans les trois pays, le français est très implanté familialement, en partie grâce aux échanges nord-sud, aux échanges de population, les vacances, le travail,
les études. Les choses privées, en fait.
Les choses privées, voilà. Ça, c'est peu ma leçon générale. Les évolutions dépendent du privé, les évolutions bonnes et mauvaises, les deux, dépendent du privé et pas tellement de l'État.
Oui.
Alors, l'État est violemment anti-français en Algérie.
Oui, ça, on l'a perçu.
Ça. Et ça se voit, ça change. Je vais prendre un exemple qui montre que c'est ambigu. En 2005, il y a une loi en Algérie interdisant aux écoles privées, qui sont partout dans le monde le vecteur du français, d'avoir un programme différent du programme officiel, qui est un programme en arabe. Bon, les écoles privées ont réagi en faisant, le soir, un deuxième programme en français. Il vient de sortir, il y a quelques jours, une nouvelle loi disant que ce deuxième programme est interdit. Et je rappelle qu'il faut que le programme de base soit en arabe. Bon, c'est un coup de gueule du gouvernement. Ça montre indirectement que le programme principal en arabe n'était pas respecté partout. Alors, je ne sais plus quel président français, est-ce que c'est l'actuel ou c'est un précédent, a obtenu qu'on ouvre un ou deux lycées français de plus. Enfin, c'est rien d'un point de vue linguistique de masse. C'est bien, mais c'est rien. L'université scientifique reste en français. Et au Maroc, on a tiré la conséquence en disant qu'il fallait que dans le secondaire, des sciences soient enseigner de nouveau en français. Ça se fait péniblement, faute de profs, mais ça se fait petit à petit.
Faute de profs, faute de professeurs.
Au Maroc, y a-t-il suffisamment de Marocains experts en physique et francophones qui iront plus dans une boîte d'informatique, comme en France. En France, on manque aussi de profs de sciences. Alors, en Tunisie, c'est un peu comme au Maroc, sinon que c'est à peu près symétrique au Maroc. Et beaucoup d'écoles privées sont en français, beaucoup de... dans le secondaire, la part du français est forte dans les matières scientifiques, c'est un peu pareil. Et surtout, il n'y a pas d'ambiance de tension. On est un pays plurilingue, on parle arabe, on parle surtout d'Adarja, c'est-à-dire l'arabe populaire, qui est pas très différent de l'arabe classique en Tunisie, mais qui est très différent au Maroc, extrêmement oui. différent, à tel point qu'il y a des Marocains qui voudraient que ça devienne la langue officielle.
Oui.
Hurlement des puristes, évidemment, parce que, mais c'est un argot arabe, un argot arabo-français, maintenant avec des mots anglais. Et c'est la langue des chansons, c'est une langue populaire.
Mais est-ce que vous percevez, parce que vous allez régulièrement dans ces pays-là, est-ce que vous percevez qu'on l'aime, cette langue française, et qu'il y a une fierté de la parler, ou pas?
Alors, dans les bourgeoisies maghrébines, oui, ça me paraît évident. Oui, je crois que les journalistes négligent ça. Oui. Et en famille, ils parlent français. Il y avait une jolie caricature disant, arrivent trois voyous, je vais parler carrément, oui. Arrivent trois voyous d'une banlieue française sur la plage, et ils se trouvent côte à côte avec des Algériens snobs, et chics, et ils s'engueulent en français.
Voilà. Non, mais parce que je pense que c'est aussi une question d'amour, une langue, en fait. On a, et c'est ça qu'il faudrait essayer de faire perdurer dans ces pays-là, indépendamment du contexte politique qui a vicié beaucoup de choses.
Amour et utilité, quand même. Il faut quand même que ça,
oui, mais bien utilité. Sûr. Mais et les jeunes qui créent des entreprises, qui sont venus faire leurs études en France, qui vont créer des entreprises dans ces pays-là, le font-ils en anglais ou en français?
Alors, si en Côte d'Ivoire, ils le font en français.
Voilà.
Sauf s'ils sont attirés par un mouvement panafricain ou américain qui leur donne des financements, qui leur donne des formations.
On en revient toujours au même point.
Actifs, là. Mais encore une fois, c'est du privé, ça. Donc, on oublie toujours le privé.
Alors, cher Yves, il ne nous reste plus que 3 minutes. Je vais vous poser une dernière question. Qu'attendez-vous de ce sommet, de ce 19e sommet de la francophonie?
Alors,
si en France, qu'est-ce que vous en attendez?
Si j'étais tout à fait franc, je dirais comme il réunit des chefs d'État, c'est pas là que ça se passe.
Ah.
Bon, alors, il peut y avoir, je peux être agréablement surpris, on ne sait jamais, il peut y avoir des décisions de coopération, d'implantation d'université. Je vois pas venir de révolution dans l'enseignement, ça va plutôt dans l'autre sens. Mais j'attends pas trop de choses des chefs d'État en matière linguistique, dans d'autres domaines peut-être. Mais en matière linguistique, pas tellement.
Oui.
Beaucoup de bonnes paroles et beaucoup de grandes déclarations, alors.
Oui, oui, oui.
Comme
oui,
on voit très souvent. Oui,
ils ne prouvent pas grand-chose, d'ailleurs.
Et vous y serez, peut-être, comme observateur ou participant?
Je suis un modeste membre d'Avenir de la langue française, et je ferai ce que me dira la présidente d'Avenir de la langue française.
Oui, non, on va terminer là-dessus, effectivement. Alors, vous savez, quand même, je dis à nos auditeurs, parce que la presse n'en parle que très peu... Il y aura à l'espace 104, dans le 19e arrondissement de Paris, qui est un espace, vous savez, où on reçoit beaucoup de monde, je sais pas comment on appelle ces grands espaces, c'est comme l'espace Champéré, mais c'est au 104, il y aura le village de la francophonie, et tous les États seront représentés, et ça sera ouvert au public. Alors nous, ALF et plusieurs de nos associations avions tenté d'y avoir un stand. Bon, c'est géré par le ministère des Affaires européennes qui nous a dit non, mais qui nous a dit qu'il nous recevrait en visite. Alors, chers auditeurs, on va terminer notre émission. Je vous donne rendez-vous le 5 octobre à Paris, à l'espace 104, 5 rue Curial, où on ira visiter le village francophone. Merci à vous et je vous dis au mois prochain. Et merci beaucoup à la technique aussi. Bonne journée à tous.